Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
18h01 sur le 103FM, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du pédalo. Est-ce qu'on pourrait parler d'une petite révolution dans le milieu des cafés-concerts angevins? En tout cas, le milieu évolue et le Joker's Pub aussi. Jocelyn, programmateur du Joker's depuis une vingtaine d'années, vient de quitter son poste à la rentrée. Une dizaine d'années, j'ai dit une vingtaine. 8 ans. Non mais oh, ça, je suis parti. Depuis une dizaine d'années, 8 ans exactement, vient de quitter son poste à la rentrée. L'occasion pour le nouveau programmateur, Maxime Dobos, de prendre le relais. Eh bien, figurez-vous qu'ils sont tous les deux avec nous dans le studio ce soir. En deuxième partie d'émission, nous irons faire un tour du côté de la Frappe et de nos voisins de la Corlab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Cet été, malgré le temps pluvieux, nous vous faisons encore découvrir les lauréats des Bravos. Les Bravos, ce sont des trophées imaginés pour valoriser les engagements des festivals dans les transitions écologiques et sociales. Ce soir, rencontre avec le festival I'm From Rennes. Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo lève les voiles.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Au Joker, s'il était un peu tout le temps là, sans être là, c'est lui qui généralement nous mettait un tampon sur le poignet quand nous descendions dans la salle du bas, comme on dit. Son bureau, c'était juste au-dessus, à l'étage, c'est parce que c'est là où toute la programmation musicale et artistique se construit. Mais parler au passé, c'est pas forcément très judicieux puisque ses missions, ce poste, ce bureau, c'est le poste du programmateur du Joker's Pub. Alors si Jocelyn s'en va, souhaitons la bienvenue à Maxime. Salut à tous les deux.
Salut.
Salut.
Est-ce que pour l'un comme pour l'autre, arriver ou partir, ça fait quand même un petit quelque chose, une petite émotion? Jocelyn.
Vas-y, commence.
Bah oui, forcément un petit peu parce que c'est 8 ans, pas mal d'investissement. Après, c'est un peu bizarre parce que je pars et je continue un tout petit peu avec des soirées d'assaut. Donc c'est pas comme si c'était un départ définitif, donc c'est pas comme si c'était un deuil vraiment. Donc puis en plus je vais continuer évidemment de fréquenter le lieu pour voir des concerts, puisque ça a toujours été un lieu de prédilection sur Angers. Donc mais oui, forcément ça fait quelque chose, et en même temps je pense que c'est un tremplin vers autre chose et sur notre activité, parce que au bout de 8 ans tu commences à connaître un petit peu le métier, et je faisais déjà un petit peu de management à côté, et là je me dirige aussi vers ça, c'est vers une autre activité du secteur musical.
Mais n'empêche que tu t'en vas au bout de 8 ans, c'est quand même un truc, ça doit forcément toucher un peu à l'émotionnel.
C'est sûr. Après, je pense que ça aurait été encore très différent si c'était pas quelqu'un comme Max qui prenait la suite. Je pense que ça aurait été quelqu'un vraiment extérieur à la structure. Ça aurait été peut-être très étrange aussi. Donc là, il y a aussi une sorte de passation de relais, quoi.
Mais c'est ça, justement, Max, ça faisait des années que toi, t'étais serveur au Joker's. Je sais pas combien de temps, je dis pas 20 ans.
Techniquement, je suis arrivé dès le début du Joker's quasiment, quand j'étais encore étudiant. Puis je suis parti faire d'autres expériences professionnelles. Et je suis revenu en 2019. Derrière le bar.
Ouais. Pareil, petite émotion d'arriver là en tant que programmateur maintenant, après tant d'années passées derrière le bar.
Ah oui, bah grosse émotion. Et
Ça faisait longtemps que tu voulais être programmateur?
Non, c'était pas forcément une volonté à la base.
Ouais.
En fait, j'aurais plus réfléchi à être musicien tout court ou à faire de l'administration dans ce milieu-là, mais c'était pas forcément une question que je m'étais vraiment posée. Par contre, oui, maintenant que ça se fait, je suis plutôt content. et puis c'est un gros challenge, donc c'est excitant.
Comment est-ce qu'on passe de serveur à programmateur?
Je te retourne la question. pour l'instant, j'essaie de rencontrer plein de gens, d'être conseillé, autant par mes collègues, je parle des collègues du Joker's, où je travaille, et aussi des collègues du milieu. Donc pour l'instant, oui, c'est ça, je suis beaucoup à l'écoute, beaucoup à aller rencontrer du monde pour justement apprendre ce nouveau métier. Après, tu vois, comme je viens de la musique à la base, il y a déjà des liens qui se font...
Il y a peut-être un peu de transmission aussi. Je suppose que Jocelyn, tu t'accompagnes, Maxime, dans cette prise de poste. En tout cas, au fur et à mesure, il a pu prendre connaissance de ton métier, de ton poste, quand toi, tu étais Maxime derrière le bar.
On échange un petit peu, effectivement.
Ouais.
Oui, on est régulièrement en contact pour voir l'avenir.
Ok. Est-ce que ça faisait longtemps que toi, tu te disais, je voudrais travailler dans le milieu de la musique et j'aimerais en faire mon métier, puisque là, ça arrive maintenant, mais avant, tu étais serveur?
Ça n'a jamais été très clair, en fait, à ce niveau-là. Travailler dans la musique, en tout cas, ça fait, je dirais, quelques années que c'était plutôt une certitude, plutôt du côté musicien ou technique, des choses comme ça. Oui, en effet, là, c'est carrément une chance pour moi d'accéder à ça, quoi.
Mmh. Jocelyn, programmateur d'un lieu aujourd'hui, c'est un poste vraiment recherché, prisé. Il y a énormément de personnes qui souhaiteraient se retrouver à un poste comme celui-là. Et toi, pour autant, t'es parti. T'avais besoin d'ailleurs?
C'est un peu comme je te le disais tout à l'heure, je pense que j'avais peut-être fait un petit peu le tour de ce côté-là. Et puis qu'après, l'envie de faire aussi d'autres choses, alors ça faisait un petit bout de temps que je voulais faire aussi l'organisation et de la prod dans d'autres lieux, ce qui va se faire, alors en partie avec le Joker notamment, et peut-être de voir aussi un petit peu ailleurs ce qui se fait dans d'autres villes, ça m'intéresserait, notamment de bosser avec Nantes et Tours, avec qui j'étais déjà pas mal en contact, et puis de développer aussi des projets en management, parce qu'en fait, le problème toujours quand t'as un boulot qui te prend quand même pas mal de temps et pas mal d'énergie, c'est que t'as moins de temps aussi pour le reste. Et que moi, c'est toujours un truc qui m'a aussi passionné, en fait, développer des projets. Et je vais avoir enfin plus de temps aussi pour développer ce genre de projet et d'être un peu multicasquette, de faire à la fois l'organisation, du management et du booking. C'est un peu l'idée.
Mais ça, c'est beaucoup de choses en même temps, non?
C'est pas mal de choses en même temps, mais en même temps, je pense que j'ai encore l'énergie pour le faire. Tu vois, j'ai une situation qui me le permet aussi. Je pense que c'est le moment aussi pour le faire. Je pense que c'est la meilleure dynamique pour moi, en tout cas en ce moment, pour le faire, tout simplement.
Et donc rester sur Angers, mais aussi partir un peu ailleurs sur le territoire, sur le département, peut-être même
voir comment
ouvrir
ça se passe, ouais.
Ouvrir les écoutilles.
Après, déjà arriver à organiser des soirées dans les meilleures conditions possibles sur Angers. Il y a pas mal de lieux intéressants à exploiter sur Angers. Puis après, avoir justement ce qui peut se faire, notamment à Nantes, je suis entré en contact avec une salle pour savoir un petit peu comment ça se passait concrètement sur les conditions d'organisation, etc. C'est un peu ça.
Jocelyn, si jamais tu devais définir l'identité, la patte que tu as laissée aux Jokers après 8 ans de programmation, ce serait quoi?
J'ai essayé de travailler. Au départ, c'était le Joker, ça a toujours été un lieu rock. Ça reste un lieu globalement rock. Après, moi, j'ai toujours écouté un petit peu tout, donc j'ai essayé à un moment de faire un peu ce qui était musique, on va dire, musique noire, donc soul, rap, tout ça, etc., funk. On en a fait un petit peu à un moment, beaucoup moins après ces derniers temps, parce que la programmation a quand même pas mal évolué, on était quand même encore sur beaucoup de groupes, on va dire, semi-pro, ça veut pas dire grand-chose, et on est monté en gamme ces dernières années avec des groupes qui étaient quand même... où souvent il y avait très peu de dates françaises, et on arrivait à avoir des groupes quand même assez de renom. Il y en a peut-être un peu moins dans des formations justement soul funk, où c'était un peu moins présent. J'avais essayé de remettre un peu du rap à un moment, mais c'est jamais évident. Il manque un peu vraiment une belle asso rap, notamment sur Angers, donc un peu plus compliqué à travailler. Puis après, c'était finalement, globalement, ça restait quand même rock, mais on a fait un petit peu quelques variantes, quelques groupes de reggae, tout ça. En général, c'était vraiment une programmation assez éclectique. En tout cas, ça se voulait éclectique, en tout cas.
Est-ce qu'on construit la programmation autour d'un lieu, ou bien est-ce que le lieu se construit autour de la programmation?
Concernant le Jokers, non, je pense que c'est quand même le lieu qui est assez important. Tu vois, c'est un lieu qui a quand même été toujours très ancré dans le rock, dans le punk. Jean-Yves, le boss du Jokers, il vient de ces milieux-là, il vient clairement du punk. Donc ça fait partie de l'ADN du lieu, qui en tout cas, à mon sens, doit se retranscrire un petit peu dans la programmation.
Ouais. Mais alors, d'ailleurs, en parlant de Jean-Yves, donc Jean-Yves Kerornou, grand fan de sport, mais aussi de rock, quel regard il a sur la programmation? Est-ce que c'est lui, finalement, qui insuffle l'énergie au lieu? Est-ce que, finalement, il y a un peu de coprogrammation qui est faite en fonction de lui, ses envies? Ou est-ce qu'il vous laisse totalement, il te laissait et il va te laisser totalement carte blanche?
Je dirais que c'est une sorte de compromis, ça lui arrive de booker des dates, mais c'est, on va dire, assez ponctuel. Non, je pense qu'il établit un lien de confiance tout en validant. En gros, c'est des discussions qui se font. Je pense que tu diras, Jocelyn, à la limite, toi, ton vécu là-dessus. Mais en gros, on prend les devants, on va booker des dates, et puis ensuite, on en cause pour ancrer ça dans le marbre.
C'est effectivement ce qui s'est passé,
ouais.
Jocelyn.
Moi, j'avais en grande partie quasiment tout le temps en carte blanche, parce qu'il me faisait confiance, même si après, des esthétiques qui lui parlaient un petit peu moins. Après, moi, je savais que je pouvais les défendre à partir du moment où je pouvais défendre un groupe. Ça garantissait, a priori, d'avoir en tout cas un petit peu de monde et que les gens comprennent qu'il y a derrière une décision du programmateur et que c'est pas un truc, Enfin voilà, contrairement des fois à des programmations un peu lissées de certaines SMAC où ils ont tous les mêmes artistes, là il y avait vraiment, en général, je choisissais, et quitte à des fois à passer à côté de certains groupes, ou si j'avais pas de coup de cœur, je programmais pas quoi. Ça arrivait.
Et est-ce que cette programmation, elle a aussi un enjeu, je suppose, t'en parlais un petit peu, mais un peu un enjeu financier quand même, il faut que la programmation ramène du monde, ou est-ce que finalement c'est le bar et l'identité du bar qui ramène du monde au concert ?
C'est un petit peu des deux. Enfin, tu vois bien, c'est quand même une entreprise privée, le Jokers, donc il faut quand même qu'il y ait du monde au concert, ça c'est évident.
C'est grave un concert où il n'y a personne, un concert raté ?
Bah, ça fait jamais plaisir dans tous les cas. Est-ce que c'est grave financièrement?
Non, mais je veux dire, au-delà de ça, est-ce que ça met voilà, aussi une pression, une responsabilité quand
tu organises un concert, tu as envie qu'il y ait du monde, autant pour toi, mais aussi pour le groupe qui va venir. Là, tu vois, du coup, j'en parle aussi avec la casquette de musicien, c'est que tu as envie qu'il y ait des gens qui viennent te voir. Quoi.
Ouais.
Donc, l'enjeu aussi de programmateur, c'est de. Comme disait Jocelyn, en fait, c'est que tu programmes des choses que tu es prêt à défendre. C'est comme ça aussi que tu vas ramener du monde. C'est en fonction de comment tu vas communiquer là-dessus, si tu es convaincu, ce sera plus facile d'en parler bien. Quoi. Donc, voilà.
Toi, tu vas rester sur cette esthétique un peu rock et rester en dehors de ces musiques noires là, dont parlait Jocelyn, parce que c'est l'identité du lieu, ou bien tu vas chercher aussi à ouvrir à d'autres genres musicaux?
Je vais essayer d'ouvrir. Après, avec Jocelyn, on a quand même pas mal de goûts en commun. Donc il y a des esthétiques qui vont clairement revenir. Hein. C'est tout ce qui est post-punk, rock indé, des choses comme ça. Moi, la principale porte en fait que j'ai envie d'ouvrir, c'est du côté du métal. J'ai envie de tester des choses là-dessus. Je pense qu'il y a un public. Donc on va tester, puis on verra si ça répond. Quoi.
Justement, la programmation de septembre, parlons-en un peu. Il y a des groupes qui vont du hard rock au post-punk, en passant par le punk rock, l'indie rock, le surf rock, le rock psychédélique. Vraiment, on est vraiment dans cette proposition rock pure et dure. Est-ce que c'est pas un peu... Bon, c'est très bien pour le public rock, mais je suppose qu'il n'y a pas qu'un public rock à Angers. Vous faites le parti d'aller vraiment cibler un public et de faire en sorte que ce public revienne, plutôt que d'essayer d'ouvrir un peu plus au plus grand nombre.
Moi, je pense que notre programmation, elle est quand même assez ouverte en général. Là, en l'occurrence, sur septembre, on est peut-être sur une esthétique avec des groupes qui, clairement, qui ne se ressemblent pas en tout cas, mais qui font partie de la scène rock. Mais non, la programmation, elle est quand même plutôt ouverte d'habitude. Et en fait, dans la programmation, il y a les concerts, mais il y a également les DJ sets, où on explore aussi de nouvelles choses. Donc, tu vois, il y a quand même des ouvertures.
Oui, clairement, mais c'est vrai que les DJ sets, c'est pas forcément un groupe qui vient sur scène.
Non, mais par contre, tu vois, les DJ sets, qu'on est en train d'essayer de programmer, on essaie de faire des DJ exactement comme les groupes qu'on est prêt à défendre aussi artistiquement, en fait.
Alors, les DJ sets, en grande partie techno, des sets qui vont commencer entre 23h, 23h30, en tout cas pour ceux du mois de septembre. Est-ce que vous allez tenter de négocier avec la mairie et le voisinage pour transformer votre salle en club de temps en temps?
On aimerait, mais ça, c'est pas possible.
C'est impossible.
Exactement.
Okay. Et comment est-ce qu'on... Et pour autant, c'est quand même, on peut quand même mettre de la techno, de l'électro.
Ah oui, bien sûr. Ouais. Tu sais, le Joker, c'est une salle qui est quand même techniquement très très bien à sonoriser. Donc il n'y a pas de problème, on peut mettre de la techno forte et se mettre bien dessus.
Le Joker, c'est un peu un bar à tout. On peut voir des matchs, se poser, boire un verre, un café en terrasse le dimanche, boire ce fameux verre de débauche, mais aussi écouter des concerts. Comment, en sachant tout ça, on réussit à donner une identité à un lieu, vous, de votre point de vue de programmateur musical? Parce que ce lieu, c'est pas que la musique, finalement.
En fait, tu vois, la volonté qu'avait Jean-Yves vis-à-vis du Jokers depuis le début, c'est d'en faire un pub dans le côté, tu sais, classique anglais là-dessus. Et en fait, les pubs en Angleterre, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a tout ça. T'y vas pour boire ta bière avec des potes en étant bruyant, t'y vas pour écouter de la musique, t'y vas et voir de la musique aussi, puis t'y vas aussi pour regarder des matchs de foot. Donc en fait, le Jokers essaye de rentrer dans cette tradition-là à ce niveau-là.
Jocelyn, toi aussi, c'est quelque chose que tu partageais, ça?
Complètement. Après, c'est forcément différent de Max, qui a une expérience aussi en tant que serveur. Donc moi, j'avais une image un petit peu différente. Je pense qu'après, en tout cas, c'est toujours pareil. Ça tient beaucoup les lieux par rapport aux individualités. Et clairement, c'était ça. Je pense que le Joker, c'était quand même une bonne bande de connaissances, de potes, tout ça. Et je crois que ça joue beaucoup, ce truc-là, en fait. Enfin, j'ai l'impression que c'est... Enfin, en tout cas, moi, les lieux que je fréquente, c'est aussi des lieux où tu sens qu'il y a une cohésion d'équipe un petit peu. Et puis après, oui, complètement, je rejoins Max. Après, moi, je connaissais aussi plus particulièrement la clientèle des concerts, un peu moins forcément la clientèle du bar qui ne venait pas voir des concerts. Donc j'aurais moins de choses à dire, mais je pense qu'en tout cas, Max a résumé complètement.
Est-ce que le but du jeu, c'est de faire se rencontrer ces deux mondes, ou est-ce que finalement, si les gens viennent boire un verre alors qu'il y a un concert et qu'ils ne vont pas au concert, ou que les gens qui vont au concert, finalement, ils ne boivent pas de verre, mais ce n'est pas très grave?
En réalité, on essaye. On essaie de faire en sorte que les publics se rencontrent. C'est pour ça que les tarifs des billets, on essaie de les tirer plus vers le bas, par exemple. C'est pour ça que les DJ sets, on essaye de faire pas mal de styles, tant que c'est efficace et que c'est de qualité. Après, des fois, les publics sont séparés. Hein. C'est comme ça. En fait, il y a aussi peut-être un choc générationnel, parfois, tu vois.
Ouais.
Où le public qui vient en concert est peut-être un peu plus âgé que notre clientèle par moment. Et ceci dit, ça dépend aussi complètement des jours, ça. Donc... En tout cas, on fait notre possible pour que les publics se rencontrent.
Jocelyn, avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais nous donner un souvenir que tu as au Jokers, un souvenir, une anecdote que tu veux bien nous partager, un moment que tu as vécu dans ces 8 ans qui te tient à cœur?
Ouais, je pense qu'il y en aurait tellement. Après, il y avait, je pense notamment, un groupe qui s'appelle Pink Sifu, qui est venu il y a peut-être 2-3 ans, qui était vraiment incroyable. Qui a joué très tard, je crois que c'était... Le mec était complètement défoncé. Mais c'était très très drôle. Et puis c'était un niveau, je pense, un niveau de jeu qui était quand même... vraiment étonnant, quoi. Le groupe était...
Ah, tu t'en souviens aussi,
magistral. Et... Ça, c'était vraiment... Après, il y en a plein d'anecdotes, mais celle-ci, en tout cas, c'est la plus récente. Et
mais le mec éclatait sur scène...
Pas forcément, en fait. Il était défoncé, mais il arrivait à assurer quand même. Et puis ça jouait tellement bien. C'était tous des guerriers de la scène jazz rap, tout ça. C'était un niveau quand même assez étonnant, quoi.
Je suppose que tu connais la programmation du mois de septembre au Jokers, que tu l'as un peu regardé.
Je l'ai fait en partie, oui.
Tu l'as fait en partie. Un groupe auquel on pourra tu seras là.
Je pense que je serai là quasiment à tous les concerts. Là, j'ai fait les deux concerts.
Si jamais tu devais choisir.
Je pense que j'irai voir. J'irai voir Witching au mois d'octobre, qui est un groupe que je trouve vraiment incroyable.
Tu peux nous en parler un peu.
C'est un groupe de, je sais pas, metal, doom, qui est un groupe avec notamment une femme au chant et que j'avais découvert peut-être il y a 6 mois. Et ça, je trouve vraiment. Et puis c'est bien parce qu'il en parlait, Max, de l'incursion un peu dans le metal qu'on a toujours un peu mis de côté ces dernières années. Et là, ça a commencé à bouger un petit peu. Et j'ai l'impression que du côté des tourneurs, ça commençait aussi à bouger un petit peu. Ouais. On commençait à avoir des propositions de tourneurs plutôt spécialisés rock et qui commençaient à investir un peu le milieu du métal. Et il y a ce groupe-là. Et puis sinon, après, il y a Sunflowers qu'on avait fait jouer il y a quelques années, qui a l'air très chouette, qui est lundi prochain, si je ne me trompe pas.
Lundi.
Maruja, qui joue après-demain.
Vendredi, ouais.
Vendredi, ouais, c'est ça. Vendredi,
qui est pareil, grosse claque. Voilà, mais en tout cas, globalement, enfin, la prog était cool, quoi. Faut y aller, quoi. Enfin, tous les concerts.
Max, toi, si jamais tu devais nous donner le concert de cette prog de septembre à pas
septembre, oulala, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Je pense que Maruja, c'est peut-être le concert que j'attends le plus, pour le coup. Ça mélange tellement d'esthétiques que je pense que ça sera très bien, ouais.
Et ben justement, Maruja, incroyable. Un groupe qui mêle une sorte de bon vieux rock des familles avec du free jazz, mais presque mélodique. Mm-hmm. Ça se passe vendredi au Jokers. Évidemment, toutes les infos à retrouver sur le site du Jokers Pub, jokerspubangers.com. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions à bord du pédalo. Ouais. Bonne continuation à toi, Jocelyn. Et Max, bienvenue. Hein.
Merci.
On se retrouvera régulièrement, évidemment, tout au cours de la saison, au micro de Radio Campus Angers pour que tu puisses venir défendre la programmation du Jokers sur nos ondes. On écoute donc Maruja et leur morceau The Thinker sur les ondes du Centre FM. Restez bien à bord du pédalo. On revient juste après. Marouja sur les ondes de Radio Campus Angers, leur morceau The Thinker, voilà, qui sera évidemment à retrouver, le groupe sera retrouvé ce vendredi à 20h30 sur la scène du Joker's Pub. Évidemment, il reste des places, jokerspubangers.com pour aller les choper. Tout l'été, nous partons à la découverte de festivals toujours plus durables. Les radios de la Corlab et de la Frappe vous font découvrir les lauréats des Bravo, des trophées imaginés par le collectif des festivals bretons, le réseau Éco-Événements et le pôle de musique actuelle des Pays de la Loire pour valoriser les engagements des festivals dans les transitions écologiques et sociales. Cette semaine, rencontre avec le festival I'm From Rennes, lauréat de la catégorie circuit court et approvisionnement.
Bravo les Bravo! Les trophées qui récompensent l'engagement des festivals de Bretagne et de Pays de la Loire pour la transition écologique et sociale. Contribuons à la production de festivals toujours plus durables. Vous écoutez l'émission des Bravo à la rencontre des nouvelles dynamiques d'action pour des événements plus responsables.
Merci.
Merci beaucoup. Le festival I'm From Rennes est l'un de ses lauréats sur une entrée circuit court et approvisionnement. On va parler avec Yul, responsable technique et membre de l'équipe organisatrice du festival I'm From Rennes depuis bien des années. Est-ce que tu peux nous rappeler comment ça commence ?
Le festival I'm From Rennes qui existe depuis 2012 est donc un festival qui a décidé de, comme son nom l'indique, de se concentrer, de faire un focus sur son territoire, c'est-à-dire Rennes et les communes de la métropole. C'est un peu une photographie, on va dire, à un instant T de la scène musicale rennaise, mais pas que musique aussi. On peut y voir aussi de la danse, des troupes d'improvisation, de manière générale, on va dire, les talents locaux, des personnes qu'on a vraiment envie de mettre en avant au sein de l'édition. Mais on le fera de toute façon toujours en musique. Donc ce sera toujours la scène locale qui mettra en musique, en tout cas les différents lieux, les différents concepts qu'on va mettre en place voilà, pendant le festival. L'idée c'est d'aller fouiller un peu, voir les nouveaux prestataires qui peuvent proposer à la fois, bah, évidemment la nourriture c'est très important, et notamment on a commencé un cycle l'année dernière, donc en 2022, autour des brasseries par exemple. En fait, on a beaucoup de chance sur le territoire. On a des très belles brasseries qui fabriquent de la très bonne bière. C'est un cycle qu'on a commencé, qui va durer quelques années, là, histoire d'essayer de faire, rendre visite en tout cas aux brasseries. L'idée, c'était d'organiser des concerts chez eux, dans leurs brasseries, d'essayer de goûter. Mais évidemment, on travaille avec leurs produits, en tout cas sur tous nos événements.
Des initiatives comme celle-là, pour vertueuses qu'elles peuvent paraître, on pourrait parfois avoir les esprits mal placés et se dire « oui, mais c'est juste de la com' en fait tout ça ».
En fait, ça a beaucoup d'avantages parce que déjà, nous on prend beaucoup de plaisir à les rencontrer, juste aller voir les gens qui sont juste à côté de chez nous. Souvent, on a des super surprises, on se rend compte que ben, voilà, on a beaucoup de points en commun et ça permet de créer un échange. Mais les autres avantages, c'est qu'évidemment, les produits, ils sont vraiment sur place. Donc déjà, en coût de transport, on va gagner aussi... Enfin, ça va être un avantage pour le festival, peut-être même des économies. C'est quelque chose qui est important de se dire, il faut travailler en circuit court parce qu'il n'y a que des avantages au niveau environnemental. Mais on y voit aussi un avantage humain. Enfin, la rencontre, elle est bien et ça permet de construire des choses solides avec ses partenaires.
Vous écoutez l'émission des Bravo, les trophées qui récompensent l'engagement des festivals de Bretagne et de Pays de la Loire pour des événements plus responsables.
Qu'est-ce que vous pourriez imaginer pour aller encore plus loin que ça ? Je sais que vous faites aussi transporter le plus de matériel possible par des coursiers à vélo. Au-delà de ça encore ?
En termes de transport, on est très très bien placé parce qu'on a, enfin la production de CO2 est très très faible. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin ? Déjà le maintenir, je pense que ce serait déjà le plus gros effort, c'est-à-dire essayer de garder cette idée-là et essayer de le maintenir sur la longueur. Ça demande de toute façon un travail année après année. Donc ne serait-ce que de rester sur ce créneau-là, de toute façon ça va nous donner du travail. Et de toute façon il y aura dans tous les cas des nouvelles technologies qui vont aller dans ce sens-là. puisqu'elles vont se développer. Et l'idée, c'est de rester au plus proche des dernières trouvailles qui permettent d'être le plus neutre possible sur la partie environnementale. Ces dernières années, on a travaillé beaucoup avec les systèmes sons solaires. Ça, c'est très intéressant. Évidemment, comme tu le citais tout à l'heure, le transport à vélo, ça, il faut vraiment qu'on le développe. Nous, on a encore une marge de progression qui est encore assez grande là-dessus. On peut aussi travailler sur la gestion des déchets. Il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Et déjà, ce qu'on essaie de faire depuis des années, c'est d'avoir le moins de déchets possible. Par exemple, sur les bars du festival, on est quasiment au déchet zéro parce qu'on essaie de travailler au maximum avec des produits qui sont en fût, qui nous permettent, après le festival, d'avoir presque zéro déchet.
Finalement, la meilleure chose pour le public, les musiciens et puis l'environnement, ce serait que tous les territoires fassent la même chose qu'I'm From Rennes. Vous avez essayé d'influencer vos petits camarades, organisateurs, organisatrices de concerts ailleurs ?
Nous, de toute façon, on a forcément été influencés par d'autres. Si maintenant nos actions permettent de donner des idées à d'autres, on en sera très fiers. Mais de toute façon, c'est un travail qu'on a tous à faire. Et il faut tous qu'on tende vers cette idée-là d'être le plus sobre possible quand on organise un événement qui peut dépasser les 10 000, 15 000 ou 20 000 personnes. Il faut de toute façon que toutes les structures, tous les festivals tendent vers cette idée-là pour essayer d'être toujours meilleur là-dessus.
Merci Youl et bravo encore une fois au festival I'm From Rennes pour ce trophée circuit court et approvisionnement. Vous retrouverez bien sûr le festival I'm From Rennes à la rentrée 2023 du 7 au 17 septembre. Toutes les infos sur imfromrennes.com. C'était une émission réalisée par Yann de la radio Canal B à Rennes.
Les Bravos est un projet mis en œuvre par le collectif des festivals bretons, le réseau Éco-événements et le pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire. Une émission réalisée par la Corlab et la Frappe.
Et le pédalo termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Étienne ce soir à la technique. Nous, on se retrouve dès demain avec le collectif Détroit qui va fêter ses 5 ans d'existence. On parlera techno, évidemment. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.